Le Gabon, un petit pays d'Afrique, un pays paisible, avec nous Isabelle Issambé, médecin et militaire. Comment est-ce que vous est venue l'idée d'être médecin?
Quand on est petit, chaque enfant a toujours un rêve ou bien on lui pose toujours la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et moi, j'avoue que j'ai été conditionnée par la profession de mon père, qui était également lui médecin, qui peut-être à cause de cela, le fait que ce soit toujours lui qui nous ait soignés, le fait de le voir comme protecteur de la famille dans ce sens-là, je pense que c'est ce qui m'a donné au début l'envie de devenir médecin moi-même.
Alors, vous avez fait médecine où?
J'ai fait médecine au Maroc, à Rabat. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai sauté sur l'occasion qui m'était donnée de passer un concours pour être engagée dans le service de santé militaire, qui à ce moment-là était encore un service pas très très bien connu.
Et pourquoi vous avez été attiré par le service de santé militaire?
Toujours de manière un peu enfantine, j'aimais bien les uniformes. C'était impressionnant de voir des gens en uniforme. Ça faisait fier, ça faisait glorieux, ça faisait respect. Et donc, en fait, j'ai d'abord suivi ça en ne pensant pas qu'est-ce qu'il pouvait avoir derrière l'uniforme. Voilà, donc c'était plutôt un rêve d'adolescente, quoi, disons.
Vous commencez donc ce service de santé militaire.
Oui, le parcours de cette formation, c'est que on est recruté dès la première année de médecine, donc juste après le bac, et on suit en même temps la formation médicale et la formation militaire. Donc, étant au Maroc, en première année quand je suis arrivée, je suivais les cours de médecine à l'université civile de Rabat et j'étais en caserne le reste de la journée. Donc, c'était tout à fait une formation militaire.
Les exercices militaires, racontez-nous.
Je vais vous dire brièvement la journée d'un jeune militaire hein, de première année. Alors le matin, il y a la levée des couleurs. Ensuite, on est amené à l'université. On avait des bus militaires qui nous emmenaient à la faculté de médecine pour suivre tout le cours, toutes les activités de l'université. Et le soir ou à midi, quand on n'avait pas cours l'après-midi, on repartait. On revenait à la caserne militaire où bon, on était logé et nourri. Entre autres, on avait des petites activités militaires comme des petites manœuvres, des petits exercices physiques. Rien de très très méchant à ce niveau-là.
Étonnamment, vous allez suivre une formation et de médecine et une formation militaire.
Oui.
Vous avez un grade?
Oui. Je suis médecin et j'ai le grade de commandant actuellement.
Donc vous avez passé aussi les différents examens?
Oui, bien sûr, parce que en fonction de l'ancienneté, on grandit également en grade.
Vous avez été dans des missions de soutien humanitaire.
Oui. Ça, c'est une de mes, disons, plus grandes missions majeures que j'ai faites. Je venais à peine de rentrer et j'ai été emmenée à aller soutenir la mission humanitaire aux frontières dans une des régions de notre pays,
Au Gabon.
au Gabon, oui, et qui consistait à soutenir de manière médicale hein, les réfugiés rwandais
Qui venait aux
qui
frontières.
venaient aux frontières, oui.
Alors en quoi consiste une mission de soutien humanitaire? Vous n'êtes pas en première ligne.
Non, il faut savoir que les actions de ce service dépendent du contexte en temps de paix comme en temps de guerre. En général, en temps de guerre, c'est vrai que on s'occupe des blessés de guerre, que ce soit civils ou militaires. On est un peu retranché parce qu'on a notre camp et les blessés que l'on nous apporte sont plutôt traités dans le camp retranché. En cas de paix, comme c'est notre cas, on fait beaucoup plus du social et de la santé publique. C'est le cas qui s'est présenté avec les réfugiés rwandais. On allait beaucoup pour s'occuper de manière sanitaire parce qu'il y avait beaucoup qui venaient avec des pathologies particulières, fatigués, affamés, sans rien du tout. Donc il fallait bien qu'on soit là pour s'occuper d'eux.
Et vous faites aussi des missions de prévention.
On fait des missions de prévention dans le cadre des manœuvres militaires que nous faisons une ou deux fois par an. Une région est choisie où doit se tenir la manœuvre. Et cette région, l'avantage qu'aura ensuite, le bénéfice qu'aura ensuite cette région, qu'elle profitera des soins gratuits que la manœuvre militaire, à travers les spécialistes médicaux que nous avons, portera à la population, en tout ce qui est soins médicaux ou même chirurgicaux, soins dentaires et tout autre. Les manœuvres militaires se passaient au Gabon, mais il nous est arrivé d'intervenir dans certains pays où il y avait des problèmes politiques. Donc on a été emmené à intervenir en Centrafrique quand il y avait des problèmes là-bas.
Alors, médecin militaire, comment est-ce que l'on vit le soin, la santé, la maladie quand on est une femme et une mère de famille?
Il faut reconnaître que c'est vrai que déjà, quand on dit militaire, on voit tout de suite la force, disons le gabarit, le physique. On laisse un peu de côté les vraies actions du militaire. Médecin militaire, ce n'est pas aussi différent qu'un médecin civil.
Certainement, vous pratiquez votre métier avec beaucoup d'affection. Et est-ce que c'est pas trop difficile d'avoir et l'affection et la distance?
Si, parce que déjà je suis femme, je suis mère, donc beaucoup plus sensible aux problèmes, disons, des patients. Donc je mets beaucoup plus d'émotions. La profession également que je fais, qui est justement de subvenir, de donner de l'aide au prochain. Et donc c'est vrai qu'il faut une certaine émotion, même si en faisant médecine, on nous dit toujours on doit garder toujours une certaine distance pour ne pas être ensuite happé par tout ce qu'on voit de mal, de douloureux. Et on traite souvent les gens cas au cas par cas.
Quels sont pour vous les défis maintenant de votre pays pour la médecine et la médecine militaire?
Moi, j'aimerais vraiment qu'on mette de plus d'accent sur la prévention que la thérapie. Parce que déjà, même du point de vue économique, ça reviendrait moins cher de prévenir que de traiter quand la maladie est déjà là. On a malheureusement des zones où parfois les soins et les informations ne sont pas accessibles. Donc il faudrait qu'on mette plus d'équipes mobiles qui puissent arriver jusqu'au fin fond de ces régions pour pouvoir informer la population. Et puis essayer également de changer la mentalité parce que c'est bien beau d'informer, mais il faut aussi essayer de changer la mentalité d'une région, que ce soit pour le sida ou bien d'autres maladies. On est dans une région d'Afrique où il y a encore des croyances, on préférera aller chez le tradit praticien, d'aller chez le charlatan au lieu d'aller à l'hôpital. Ouais, c'est beaucoup plus des problèmes culturels qu'il faut commencer à régler. On a le même problème avec le paludisme. On est une zone d'endémie, mais il faut reconnaître que dans ces coins retirés, il est toujours difficile de faire comprendre à quelqu'un que quand votre enfant ou quand votre proche est malade, qu'il faut aller à l'hôpital tout de suite. C'est vrai aussi que c'est un problème de moyens financiers aussi.
Est-ce que vous avez réussi, étant en Occident depuis un certain temps, à voir les manques, les avantages ou bien des choses dont vous pouvez tirer parti?
Moi, je prends un exemple. Il m'est arrivé d'assister à des conférences ici. Parlant par exemple du paludisme, quelles sont les meilleures façons d'intervenir dans ces régions. Et il m'est arrivé parfois d'entendre bon, moi je dirais des absurdités, quoi, qui m'ont d'ailleurs même fait réagir en disant que non, écoutez, ce ne sont pas les réalités africaines dont vous parlez. On a l'impression qu'ils ne sont jamais allés sur le terrain. Ou bien ce sont des personnes qui vont pour un mois, donc ils n'ont pas le temps de comprendre la mentalité et la culture de la région dans laquelle ils veulent intervenir. Et moi, je pense que ça porte à beaucoup d'erreurs de leur part. Et je connais mieux les choses, moi qui suis sur le terrain, que des personnes qui viennent pour un temps bref, donc qui n'ont pas le temps d'étudier les gens, la manière de vivre, la mentalité des gens sur le terrain. Moi, je ne pense pas qu'en un mois, on peut déjà comprendre qu'est-ce qui se passe dans une région autre que la sienne. Et je pense qu'il devrait beaucoup faire beaucoup plus confiance à nous-mêmes, les Africains, hein, parce qu'on a parfois l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, voilà. Qu'ils préfèrent, eux, avoir leur manière de penser, eux, et qu'ils ont tendance, nous, pourtant, spécialistes également, intellectuels également de notre pays, donc on connaît mieux qu'est-ce qu'il faut pour notre pays. Et eux, maintenant, ils devraient quand même essayer de nous écouter et de réagir en fonction de ce que nous, les spécialistes, on leur dit.
Quelles sont les valeurs essentielles que vous mettez en priorité dans l'exercice de votre métier?
La passion. Moi, je pense que c'est un métier. Mon père me le disait d'ailleurs toujours, qu'il faut faire ce métier-là avec passion. Parce qu'une fois qu'il y a la passion, il n'y a pas de barrière. Moi, je pense que quand on fait avec passion et on pense d'abord à la vie de la personne et à l'argent après, aux bénéfices financiers après. Moi, je n'aurais qu'une valeur, c'est faire ce métier avec passion. Le faire avec passion, et pas autre chose.